Merci, Monsieur le Président, et merci aux délégués qui ont posé des questions fort intéressantes. Je vais essayer d'y répondre très brièvement. Et je commencerai par répondre à Cuba. Vous posez la question de savoir si certaines dispositions du droit de la mer seraient applicables à l'espace extra-atmosphérique, notamment celui qui pose le principe du patrimoine commun de l'humanité. Alors, on a essayé d'y procéder dans l'accord sur la Lune par le passé. Il y a du reste une référence à ce concept de patrimoine de l'humanité. Mais il faut bien reconnaître que le principe n'a guère été soutenu par la communauté internationale. Pas seulement cette référence en raison de cette référence au patrimoine commun de l'humanité, mais pour d'autres raisons. Donc le principe est resté un petit peu dans l'ornière, c'est un petit peu enlisé. Donc je pense que d'un point de vue pratique, il serait difficile de convaincre la communauté internationale d'appliquer ce principe à l'espace, vu qu'il y a un principe similaire, malgré quelques différences juridiques, qui est celui du principe de, comme on dit en anglais, province of all mankind. Donc un patrimoine commun, en fait, ça serait en français quand même, une propriété commune à l'humanité. C'est un peu plus neutre parce que le principe du patrimoine commun de l'humanité est étroitement lié au principe du res communis, qui est un principe de droit privé. Or, il n'est pas toujours heureux d'appliquer des principes de droit privé au droit public international. Ça peut créer une certaine confusion, d'autant plus que l'article 2 du Copios prévoit l'interdiction d'appropriation ou d'établissement de souveraineté dans l'espace. Donc, cela peut poser une certaine confusion. Je passe à l'anglais. Et pour répondre à l'Iran à propos de la commercialisation de l'espace et la menace que pourrait représenter la concurrence commercial dans l'espace. Je ne peux pas vraiment répondre de manière définitive à cette question. Je pense que les retombées pourraient être plutôt le contraire. Le fait que tant d'acteurs commerciaux souhaitent exploiter l'espace à des fins commerciales, justement, pourrait faire que les États se rendent compte que c'est peut-être un domaine où la paix doit régner à tout prix. Et que l'on doit faire en sorte qu'elle règne justement, grâce aux normes nécessaires. Pour répondre au Pakistan et à l'Indonésie, dans la foulée, qui ont insisté sur l'importance de faire la différence entre le droit de la guerre, ou le droit applicable en temps de guerre, et le droit en temps de paix, pour le droit de la mer et le droit aérien. Ces régimes juridiques autorisent la guerre. Avez-vous dit non? Aucun régime juridique n'autorise la guerre, ni le droit de la mer, ni le droit aérien en particulier. Mais il y a des normes relatives à la conduite de la guerre pour savoir ce que l'on peut faire pour mitiger, pour atténuer les conséquences humanitaire de la guerre. Mais la guerre n'est pas autorisée. Du reste, la charte l'interdit, la charte de l'ONU. Le droit de la mer et le droit aérien, donc, peuvent servir d'inspiration, mais effectivement, pour réfléchir à propos de ce qu'il faudrait faire en cas de conflit. Voilà, je, c'est ma réponse. Je ne sais pas si j'ai